Bienvenue à Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous rencontrons les personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animateur, André Laplante. Nous sommes en 1946. Après une guerre longue et dévastatrice qui a duré 6 ans, l'optimisme économique atteint des sommets. Les soldats rentrent au pays pour s'établir et le baby-boom bat son plein. En 1946, le Canada a enregistré une augmentation spectaculaire de 15 % du nombre de naissances en un an seulement. Au Canada, le baby-boom s'est poursuivi pendant 20 ans, et durant cette période, plus de 8,2 millions de bébés ont vu le jour. Les démographes utilisent un graphique appelé « pyramide des âges » qui présente la population totale répartie par génération. Il permet de voir quel pourcentage de la population chaque groupe d'âge représente. Pendant le baby-boom, la pyramide du Canada se présentait comme on pourrait s'y attendre. Une base large représentant un grand nombre d'enfants et de jeunes qui se réduit à mesure que l'on progresse vers le haut. Elle ressemblait véritablement à une pyramide. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Notre pyramide des âges a perdu sa large base. On trouve un gros bombement au milieu du graphique qui représente la génération Y et un autre, encore plus important au-dessus, qui représente les baby-boomers aujourd'hui. En réalité, elle ne ressemble plus vraiment à une pyramide. On dirait plutôt une marée qui monte et descend au fil des vagues. Est-ce que cette nouvelle pyramide, ponctuée de bosses et de creux, inquiète les démographes? Quelles sont les implications du vieillissement de la population canadienne et comment en sommes-nous arrivés là? Je ne suis pas démographe, mais heureusement, ils sont nombreux à travailler juste à côté de moi. Je vais donc aller en trouver un pour qu'il m'explique tout ce que cela signifie.
Bonjour, mon nom est Patrick Charbonneau et je suis un chef de section pour le programme des estimations démographiques au Centre de démographie à Statistique Canada.
Patrick, avant notre conversation, j'explorais la pyramide des âges interactive de Statistique Canada. On voit assez clairement qu'aujourd'hui, elle est plus large au sommet. Les personnes de plus de 60 ans représentent une part importante de la population canadienne. Pouvez-vous nous expliquer comment on en est arrivé là et à quoi ressemblait la pyramide des âges il y a quelques années? Comment est-ce que ces changements se sont produits?
Oui, bien en fait, effectivement, là, ce que vous voyez, c'est l'effet du vieillissement démographique. Il y a plusieurs années, le Canada avait une plus forte fécondité, une mortalité un peu plus élevée. Et tranquillement, on a transitionné vers un régime de plus faible fécondité et d'une espérance de vie plus élevée. C'est vraiment l'effet de cette transition démographique que l'on voit sur la pyramide des âges du Canada. Et également, peut-être ce que j'ajouterais, c'est qu'en plus de ces phénomènes-là, on a eu une génération qui était très particulière, qui est née entre la fin des années 40 et le début des années 60, les baby-boomers. Donc, les baby-boomers ont été très nombreux à naître dans ces années-là et on les retrouve maintenant dans des âges plus avancés, dans la soixantaine, 70 ans, et ils viennent gonfler un peu la taille de la pyramide des âges à des âges plus avancés actuellement.
En parlant de pyramide, est-ce qu'il existe une pyramide des âges qu'on pourrait considérer comme idéale? Est-ce que ça varie selon les pays ou est-ce qu'il y a plutôt un modèle universel de distribution d'âge considéré sain?
Ben en fait, comme démographe, je ne dirais pas qu'il y a une pyramide des âges de forme idéale. Je dirais plutôt que la pyramide des âges va évoluer avec le temps. Je parlais un peu là, de la transition démographique lorsqu'un pays passe d'un régime de forte fécondité, forte mortalité vers un régime de faible fécondité, faible mortalité. Lorsqu'un pays a une fécondité plus faible, on va voir davantage une pyramide des âges avec une base très large, une forme très triangulaire, donc la pyramide typique, ce qui n'est pas nécessairement la pyramide idéale, mais qui est la pyramide, je dirais, de base. Et au fur et à mesure qu'une population d'un pays va vieillir au fur et à mesure que l'espérance de vie va augmenter, que la fécondité va diminuer. On va se diriger vers une autre forme de pyramide qui va se transformer un peu, si on reste dans les métaphores égyptiennes de pyramide, elle va se transformer un peu comme avec une forme de sarcophage. Donc, ça, c'est ce qui va se passer lorsque la population d'un pays a tendance à vieillir.
Quand on parle du vieillissement de la population, on pense souvent à la baisse du nombre d'enfants. Moi, j'ai près de 40 ans, et dans les générations précédentes, il était courant d'avoir déjà des enfants à mon âge. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aussi, les Canadiens vivent plus longtemps. Selon vous, dans quelle mesure est-ce que le vieillissement est lié à la baisse de la fécondité par rapport à l'augmentation de l'espérance de vie?
Oui, ben effectivement, vous amenez un très bon point parce que le vieillissement de la population est en effet lié à la faible fécondité. Statistique Canada a notamment diffusé des données récemment comme quoi le taux de fécondité, le nombre d'enfants moyens par femme a atteint un creux historique. Donc, c'est une des variables qui explique pourquoi la population vieillit et qu'elle vieillit plus rapidement. L'autre variable, évidemment, c'est aussi la hausse de l'espérance de vie. Donc, le fait que les gens vivent plus longtemps. Donc, à garder en tête parce que, en fait, le vieillissement démographique est un peu le résultat de certains progrès sociaux. Donc, la maîtrise d'une fécondité et les gains en espérance de vie aussi, là, donc des progrès en santé, en médecine qui font que les gens vivent plus vieux. Donc, faut aussi garder ça en tête comme quoi le vieillissement démographique survient dans un contexte où on arrive à effectuer plusieurs progrès sociaux.
Et au-delà de ces facteurs, quels autres éléments contribuent au vieillissement de la population?
Bien, je vous dirais que le vieillissement démographique tel qu'il est actuellement au Canada et dans plusieurs sociétés occidentales, il a été accentué par la fameuse génération des baby boomers. Donc, oui, le fait qu'on a eu une génération très nombreuse qui est née entre les années 40 et les années 60 fait en sorte que aujourd'hui, on retrouve ces baby-boomers-là aux âges plus âgés, définitivement que ça vient accentuer un peu l'ampleur du vieillissement démographique au Canada tout particulièrement.
Une autre conséquence du vieillissement touche les familles, notamment la génération sandwich. Pouvez-vous nous expliquer qui ils sont et pourquoi ce groupe est particulièrement touché?
Oui, bien, en fait, quand on parle de la génération sandwich, ce n'est pas nécessairement une génération en termes d'années de naissance, mais c'est plutôt une génération qu'on définit comme étant des personnes qui doivent prendre soin à la fois, disons, de parents ou de proches vieillissants et aussi d'enfants ou de personnes à leur charge plus jeunes. Donc, ça peut toucher de plus en plus de gens au Canada avec le vieillissement démographique. Puisque les gens vivent plus longtemps, ça fait en sorte que les enfants vont vivre avec leurs parents beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc ça, c'est vraiment un phénomène que oui, on peut observer davantage avec le vieillissement démographique, notamment quand on regarde la hausse de la population qui est âgée de 85 ans et plus, ça amène les gens à peut-être être un proche aidant pendant plus longtemps au cours de leur vie. Il n'est pas rare là, de voir des personnes âgées eux-mêmes faire partie de la génération sandwich. Donc, on peut penser, par exemple, à des personnes qui sont âgées de 60, 70 ans et qui ont encore un ou deux parents en vie dont ils doivent s'occuper. Et dans certains cas, ces personnes âgées-là de 60, 70 ans peuvent aussi avoir des petits-enfants, des enfants et doivent peut-être s'occuper de la garde des petits-enfants, occuper un rôle être très présent dans la vie familiale. Ça aussi, on doit le garder en tête, le fait que les personnes âgées, les baby-boomers eux-mêmes peuvent vivre une certaine pression, mais peuvent aussi être vus comme une force parce qu'ils contribuent beaucoup à la cohésion entre les générations, la solidarité entre les générations.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes ou tendances démographiques qui méritent l'attention des chercheurs en ce moment?
Ben, je dirais que en ce moment, ce qui est intéressant, c'est beaucoup la hausse des générations les plus âgées. Donc, les personnes non pas de plus de 65 ans, mais c'est maintenant les personnes de plus de 85 ans. Ce groupe-là, on va les suivre de près parce que c'est le groupe d'âge qui va augmenter le plus rapidement dans les années à venir. Donc, on sait qu'à partir de 2030, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus va commencer à se stabiliser, va continuer tranquillement d'augmenter, mais on atteint un certain plateau. Cependant, si on regarde la population des personnes très âgées, au-dessus de 85 ans, cette population-là pourrait encore tripler au cours des prochaines années, dû au fait que les baby-boomers vont commencer à atteindre ces âges-là. Donc ça, c'est un groupe qu'on va devoir suivre de plus près. C'est des âges, aussi 85 ans et plus, on arrive à des âges qui peuvent requérir davantage de soins, de services sociaux. Donc ça va mériter une attention, toute particulière.
La situation varie également selon les provinces. Par exemple, certaines régions comme le Canada atlantique connaissent une forte immigration des jeunes vers d'autres provinces. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène et son incidence sur les communautés rurales?
Oui, ben définitivement, vous l'avez bien dit, là, le vieillissement démographique n'a pas la même intensité partout au Canada. Donc, il y a vraiment un gradient urbain-rural. Effectivement, on voit que le vieillissement démographique peut toucher davantage les plus petites communautés rurales que les grands centres urbains. Par ailleurs, on sait aussi que les provinces atlantiques et le Québec sont généralement plus âgées que le reste du Canada. À l'inverse, les prairies et les territoires sont plus jeunes, notamment là, dû à une fécondité qui est historiquement plus élevée dans les prairies et les territoires. Mais aussi, vous l'avez bien dit, là, en raison de migration interne. Donc, pendant longtemps, historiquement, par exemple, les provinces atlantiques ont perdu dans leurs échanges migratoires, surtout au profit des provinces des prairies. Souvent, les personnes qui migrent sont des jeunes adultes. Donc, ça vient accentuer le phénomène de vieillissement démographique des provinces qui vont perdre de la population. D'autant plus que ces jeunes adultes-là sont ceux qui, généralement, ont des enfants, donc des enfants qui n'auront pas nécessairement dans leur province d'origine, mais qui vont avoir dans leur province de destination. Donc ça aussi, ça vient peut-être un peu accentuer les contrastes là, entre les provinces. Une statistique intéressante aussi pour démontrer que le vieillissement de la population est inégal à travers le Canada, c'est qu'on a noté récemment, en 2025, que Terre-Neuve-et-Labrador est devenue la première province au Canada où la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a dépassé 25%. Donc maintenant, il y a plus d'une personne sur quatre à Terre-Neuve-et-Labrador qui est âgée de 65 ans et plus. C'est la première province là, dans ce cas-là. En comparaison, le Nunavut, avec la plus faible proportion de 65 ans et plus, comptait 5% de personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, on voit vraiment l'ampleur de la différence entre, disons, les provinces de l'Atlantique et les territoires.
Vous et votre équipe travaillez beaucoup sur les estimations démographiques. Pouvez-vous nous décrire comment vous estimez la population future et pourquoi est-ce que ce travail est important?
Oui, ben mon équipe est responsable du programme des estimations démographiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on produit les chiffres qui sont les chiffres de population, en fait, après le recensement, à des dates précises. On utilise toujours le recensement comme données de base, le recensement ajusté, et on ajoute aussi des calculs sur la base de données administratives qu'on reçoit. Donc, par exemple, les données d'immigration, les données de l'état civil ou des données administratives de l'impôt qui nous permettent là, d'ajouter ou de soustraire des gens de la population. Donc, par exemple, on peut ajouter les naissances, on peut soustraire les décès, ajouter le nombre de nouveaux immigrants qui arrivent. Donc, les estimations démographiques sont extrêmement importantes, d'une part, pour répondre à certains mandats législatifs de Statistique Canada. Donc, par exemple, pour les paiements de transfert du gouvernement fédéral aux provinces. Donc, on peut penser au programme de péréquation ou au transfert en santé. Tous ces transferts-là sont faits per capita sur la base de la population et c'est la population des estimations démographiques qui est utilisée. Mais au-delà, je dirais, du mandat législatif, c'est extrêmement important d'avoir des chiffres récents de population pour savoir comment notre population évolue, ne pas le savoir beaucoup plus fréquemment que seulement à chaque 5 ans, lorsqu'on mène des recensements, mais aussi pouvoir le savoir, 4 fois par année dans le cas de la population des provinces et territoires. Et je vous dirais aussi que les chiffres, des estimations démographiques sont, essentiels afin de mener d'autres, enquêtes clés de Statistique Canada. Donc, par exemple, pour l'enquête sur la population active, on utilise des totaux de contrôle qui sont un peu des poids de sondage pour calibrer les données qui sont produites à l'aide de l'enquête sur la population active. Donc, nos estimations sont aussi essentielles à la prestation de diverses enquêtes à Statistique Canada.
Est-ce qu'il y a des idées reçues sur le vieillissement de la population canadienne que vous aimeriez préciser ou nuancer?
Ben oui, certainement, là, parce que souvent, quand on parle de vieillissement démographique, c'est souvent les côtés négatifs du vieillissement qui vont ressortir en premier. Le fait que, bon, les personnes âgées peuvent constituer une charge sociale, autant pour les pensions que pour le système de santé. Mais je pense que les aspects positifs du vieillissement méritent d'être mis de l'avant davantage parce que le vieillissement démographique, ça s'accompagne aussi de contributions sociales importantes de la part des personnes âgées. Je parlais tout à l'heure du fait que beaucoup de grands-parents vont s'impliquer dans la vie familiale, aider leurs enfants dans la garde des petits-enfants. Donc, il y a beaucoup, je pense, de jeunes parents qui n'arriveraient pas à balancer leur vie sans l'aide de leurs parents vieillissants qui donnent de l'aide pour la garde des petits-enfants. On peut aussi penser aux bénévolats. Donc, les personnes âgées, les générations des baby-boomers, ce sont des générations qui font beaucoup de bénévolat. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte quand on regarde le portrait global du vieillissement démographique. Donc, il y a un rôle dans la solidarité intergénérationnelle qui est joué par les personnes âgées. Et ça, c'est important d'en tenir compte aussi.
Avant de terminer, est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et dont vous aimeriez parler?
Peut-être une chose que je dirais qui peut être importante, c'est l'impact de l'immigration sur le vieillissement démographique. Bon, l'immigration peut être extrêmement utile pour contribuer à la croissance de la population. Par contre, l'immigration va avoir, oui, un impact sur le vieillissement démographique qui est souvent ponctuel, mais qui ne sera pas nécessairement durable dans le temps. Donc, ça, c'est parfois des idées préconçues, parce que, bien sûr, les immigrants vieillissent eux aussi. L'immigration peut contribuer à pallier certains besoins au niveau de la main-d'œuvre, définitivement peuvent aider à faire en sorte que la population d'un pays comme le Canada continue de croître au fil du temps, mais il faut être prudent dans les impacts de l'immigration sur le vieillissement de la population. Ça, c'est autre chose et c'est pas toujours aussi simple que ça peut en avoir l'air. Étant donné que, comme je le disais, les immigrants vieillissent aussi, l'impact n'est pas si énorme que ça.
Pour nos auditeurs qui voudraient approfondir leurs connaissances sur la population canadienne et la démographie, où est-ce qu'ils peuvent trouver plus de renseignements?
Ben oui, définitivement, je les inviterai à consulter le site web de Statistique Canada et plus particulièrement, on a deux portails qui sont très intéressants. Le premier portail, c'est le portail de la démographie, des statistiques sur la démographie et de la population. Il existe aussi un portail, là, comme on parle de vieillissement démographique, il existe un portail sur les adultes âgés qui fournit une foule de renseignements statistiques en lien avec le phénomène du vieillissement démographique aussi. Je les inviterais fortement à consulter les données qui sont disponibles, les analyses, les articles qui sont disponibles sur ces deux portails-là.
Merci Patrick d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour nous faire part de votre expertise.
Merci André, ça m'a fait plaisir aussi.
Vous venez d'écouter Écoutez bien. Merci à notre invité Patrick Charbonneau. Vous pouvez vous abonner à ce balado partout où vous écoutez vos émissions. Vous y trouverez également la version anglaise de notre émission intitulée Essayers. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'évaluer, à laisser un commentaire et à vous abonner. Merci de nous avoir écoutés.